Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous, à l'écoute de ce bulletin d'informations. En sommaire aujourd'hui, selon le sondage STEM, 7 partis politiques accéderaient à la Chambre des députés. Le ministère du Travail et des Affaires sociales prévoit une valorisation exceptionnelle des retraites et 2 condamnations conditionnelles ont été prononcées dans l'affaire du détournement des fonds européens. Selon un sondage de l'agence STEM, 7 partis politiques franchiraient le seuil de 5% et accéderaient à la Chambre des députés si les élections se tenaient à la mi-septembre. 4 partis déjà présents pendant la dernière législature siégeraient à nouveau à la Chambre basse. Il s'agit dans l'ordre des préférences de la social-démocratie, du Parti communiste, du Parti civique démocrate et du Top 09. Nouvellement, le mouvement Anon de Andrei Babiš et le Parti des droits des citoyens, fondé par le président Miloš Zeman, seraient représentés à l'Assemblée. Après leurs absences dans la législature précédente, les chrétiens démocrates compléteraient à nouveau les rangs des députés. Selon l'agence STEM, la volonté des Tchèques d'aller voter augmente avec une participation estimée maintenant à 65%. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, František Koníček, propose une valorisation exceptionnelle des retraites pour l'année 2014. Le montant des retraites pourrait ainsi mieux refléter la hausse des prix de 1,3% observée dans la période entre septembre 2012 et août 2013. Selon les règles en vigueur, l'augmentation régulière de la pension se calcule en fonction de la croissance des salaires réels, ce qui signifierait une hausse mensuelle de 45 couronnes, c'est-à-dire 1,5 €. František Koníček qui propose une valorisation de 300 couronnes, environ 12 €, aurait seulement un mois pour faire adopter son projet avant que la nouvelle Chambre des députés ne soit élue, les 25 et 26 octobre prochains. La Cour municipale de Prague a statué ce vendredi dans l'affaire du détournement des fonds européens du programme opérationnel régional de la région sud-ouest. Jiří Trnka, le directeur du bureau régional, ainsi que son assistant Martin Pulpitl, ont reçu des peines conditionnelles. Selon la conclusion de la Cour, ils avaient abusé de leur pouvoir au moment de la sélection des projets financés du programme. Le manque de transparence ainsi que des abus dans l'utilisation des fonds européens en République tchèque ont été dénoncés par la Commission européenne à plusieurs reprises. À l'occasion de la fête nationale célébrant la création de l'État ce samedi 28 septembre, 17 personnalités tchèques ont reçu des mains du président du Sénat Milan Štěch une médaille commémorant leur mérite. Selon les paroles de Milan Štěch, il s'agit des personnes ayant contribué à ce que la République tchèque devienne un meilleur endroit pour vivre et qu'ils avaient répandu le renom du pays dans le monde. Parmi eux se trouvent les décathloniens Roman Šeberle et Robert Zmielik, la spécialiste du Japon Vlasta Winkelhoferová ou encore Libor Peška qui a sauver la vie d'une personne pendant les inondations. Cameron Kerry, le frère du chef de la diplomatie américaine John Kerry, visitera la République tchèque avec son épouse à la mi-octobre. Le couple voyagera près de Brunta, dans la région silésienne, où vivaient le grand-père de Cameron et John Kerry. En 2003, à l'occasion de la candidature présidentielle de John Kerry, les médias américains ont enquêté sur les racines centro-européennes de la famille. Selon leurs informations, le grand-père en question vivait à Horní Benešov, près de Bruntál. Il a changé de nom de Fritz Kohn à Frederick A. Kerry et il s'est converti du judaïsme au catholicisme. Ensuite, il a émigré aux États-Unis. Ainsi, John Kerry est le second chef de la diplomatie américaine ayant des racines tchèques à côté de Madeleine Albright. Et un mot de météo, ce samedi, jour de fête nationale, à l'occasion de son Venceslas, donc des Václav, le ciel sera partiellement couvert sur l'ensemble du territoire avec les températures autour des 15 degrés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Lucie Drexelova. Restez à l'écoute pour la suite de notre programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Lutzka ou à Lucie si vous préférez pour son bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. En cette fin de semaine, 3 grands sujets figurent au sommaire de cette actualité. Il sera donc d'abord question du recensement des enfants roms dans les écoles dites pratiques ou spéciales, un recensement ordonné par le ministère de l'Éducation. La République tchèque entend ainsi prouver aux instances européenne qu'il accuse de discrimination, que des efforts ont été entrepris dans le domaine. Dans la réalité, cependant, peu de choses semblent avoir évolué dans le bon sens, comme nous l'entendrons dans quelques instants. Place ensuite à un festival artistique indépendant, son nom Next Wave. N'ayez pas peur, son ambition est seulement de montrer de nouveaux styles artistiques, mais aussi de faire découvrir de nouvelles limites encore inexplorées de la scène alternative tchèque. Et puis la seconde partie de ce programme sera consacrée à l'économie, avec pour thème une conférence internationale qui s'est tenue cette semaine à Prague, portant sur les échanges économiques entre la République tchèque et les pays africains. Très bonne écoute. Recenser les élèves roms scolarisés dans leurs établissements. Telle est la mission dont ont été chargés par l'inspection de l'éducation nationale les directeurs des écoles dites pratiques, autrefois aussi appelées spéciales. Depuis plusieurs années, la République tchèque est régulièrement accusée par les instances européennes de violer les droits des enfants roms à une éducation sans discrimination en les plaçant dans ces écoles pratiques. Toutefois, selon l'Association des pédagogues spéciaux, non seulement un tel recensement est interdit, mais aussi impossible. En effet, comment reconnaître qu'un élève est rom ou ne l'est pas ? La demande des inspecteurs a été transmise la semaine dernière aux directeurs de toutes les écoles élémentaires pratiques du pays. Ceux-ci avaient jusqu'à jeudi 26 septembre pour faire le décompte de leurs élèves roms et transmettre les chiffres au ministère de l'Éducation. Ce recensement intervient en réaction à l'arrêt prononcé en 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme suite à la plainte déposée par 18 Tchèques d'origine rom scolarisés dans des écoles spéciales en raison, selon eux, de leur origine ethnique. À l'origine, ces établissements étaient destinés aux enfants souffrant de déficiences intellectuelles et incapables de suivre un cursus scolaire ordinaire. Dans la réalité, en République tchèque, ces écoles pratiques accueillent dans une très grande majorité des enfants roms. Lorsque nous l'avions rencontré en novembre 2012 à Prague, le commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe, Niels Muižniks, revenait d'une visite dans une de ces écoles spéciales à Kladno, en Bohême centrale. Pas langue de bois, le commissaire letton nous avait alors raconté ce qu'il avait vu là-bas.
On m'a dit que oui, on ne sait pas combien de roms, le pourcentage. Officiellement, on ne sait pas, mais on sait que c'est 100% sont des roms. Et oui, il y avait un bâtiment fantastique, des profs très bien, mais c'est une école séparée. C'est clair qu'il y a beaucoup d'intérêt de maintenir le système actuel qui n'est pas bien pour les roms et qui n'est pas bien pour la République tchèque. Et parmi ces jeunes que j'ai vus dans l'école, c'est peut-être un qui avait des problèmes psychiatriques et tous les autres, je suis pas expert de psychiatrie, mais c'était pas évident qu'ils ont des besoins spéciaux au niveau psychiatrique ou psychologique. C'était plutôt, ils ont besoin de soutien. Soutien de profs, de soutien des parents, de soutien des autorités locales.
Aujourd'hui donc, l'inspection de l'éducation nationale tchèque entend prouver à travers ce recensement que le nombre d'enfants roms discriminés dans leur scolarisation est en baisse. Dans une lettre adressée au ministère de l'Éducation, le directeur de l'Association des pédagogues spéciaux, Irgi Pilarj, a réagi en affirmant que cette directive était en contradiction avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, car la définition de l'appartenance ou non d'un enfant à la minorité rom constitue une décision subjective. Toutefois, sur la base d'une instruction transmise par le ministère du Travail et des Affaires sociales et validée par l'Ombudsman, est rom toute personne prétendant l'être ou étant considérée comme telle par une grande partie de son entourage. Mais là encore, selon Irgi Pilarj, tous les enfants scolarisés dans les écoles spéciales ont été diagnostiqués comme souffrant d'un léger retard mental et toujours selon lui, une grande partie de l'entourage ne constitue pas un critère suffisamment clair et précis. Autant de considérations qu'affirmait ne pas comprendre le commissaire aux droits de l'homme au Conseil de l'Europe lors de son passage en République tchèque.
Je crois qu'il faut éliminer ces écoles pratiques, ces écoles spéciales. Il faut mettre les roms, les enfants roms dans les écoles normales. Je crois que la plupart des jeunes roms, peut-être, il y a très peu qui ont des maladies intellectuelles, des maladies... je crois que, oui, peut-être ils ont besoin d'un soutien spécial, mais ça veut pas dire qu'il faut les mettre dans des écoles séparées. Ça coûte très cher. non seulement financièrement, mais socialement, d'avoir un système ségrégé d'éducation avec une qualité beaucoup plus basse que dans les écoles normales.
Et toujours selon Niels Muižniks, la situation au problème est relativement simple.
Je crois qu'il faut arrêter de faire des tests psychologiques, intellectuels, disons, à un jeune âge pour ces enfants. Deuxièmement, si on fait les tests, les examens, c'est surtout pour identifier les moyens pour les aider dans les écoles normales et pas pour les mettre dans les écoles séparées. Troisièmement, il faut promouvoir une formation des profs pour les aider. Il faut casser l'opposition des non-Roms contre l'intégration. Il faut soutenir les familles Roms, surtout pour les enfants qui sont très très jeunes, dans les crèches et autrement, pour qu'ils puissent se préparer pour une formation normale.
Pour l'heure, la seule chose acquise est que le ministère de l'Éducation aura besoin des chiffres de ce recensement très controversé pour le Conseil de l'Union européenne en décembre prochain. Néanmoins, selon les statistiques, depuis un nouvel arrêté adopté par le ministère en 2011, le nombre d'enfants roms dans les écoles pratiques aurait sensiblement baissé, passant de 35 à 26%. Ce qui n'empêche pas que, dans la réalité, comme nous l'a confirmé le commissaire Niels Muižniks, 100% ou presque des élèves restent des Roms. Créé par Vladimir Hulets et Jan Dvorak en 1993, le festival artistique indépendant Next Wave a non seulement l'ambition de montrer de nouveaux styles artistiques, mais aussi de faire découvrir de nouvelles limites encore inexplorées de la scène alternative tchèque. Les deux pères fondateurs de ce festival ont décidé de transmettre, au fur et à mesure, son organisation aux générations suivantes, afin de ne pas rompre avec la continuité de la prochaine vague, la Next Wave. Denisa Tomanova s'est entretenue avec Lenka Dombrovska, qui fait partie, avec Jakub Matejka, de cette nouvelle vague d'organisateurs. C'est sa cinquième participation dans le cadre du festival, mais c'est la première fois que Lenka Dombrovska a été choisie en tant que commissaire de l'événement.
8 lieux artistiques et théâtres pragois en tout ouvrent leurs portes ce vendredi sur une durée de 15 jours dans le cadre du festival qui concentre son attention sur la scène alternative tchèque et même slovaque afin de pointer du doigt les artistes naissants qui manquent parfois pourtant de visibilité mais n'ont pas de talent. Lenka Dombrovska nous en dit plus sur la forme du festival dont les artistes sont originaires de toute la République tchèque.
Notre festival a comme sous-titre rencontres théâtrales, musicales, dansantes, littéraires, d'art plastique et d'autres alternatives. Et cela dit tout. Notre priorité est surtout de présenter la scène théâtrale indépendante, disons celle de l'art non commercial de l'underground. Cette année, le festival fête ses 20 ans. Et depuis 2003, le festival rend hommage aux artistes qui ont encouragé le développement de l'art non commercial. La remise des prix d'honneur a été préparée par la personnalité 2012 du festival, le musicien Miloš Orson Štědroň, et la soirée sera animée par le comédien Jiří Štrebl. Et à cette occasion, vous êtes tous conviés à venir au Studio Hrdinu, au Palais des Expositions, le Veletržní Palác, le vendredi 4 octobre, à partir de 20h.
Mais qu'est-ce que l'art indépendant et non commercial et de quelle façon il diffère de ce que l'on a tendance à appeler commercial ? Lenka Dombrovska s'explique.
Par indépendant, on fait référence à des théâtres qui ne sont pas en pierre, c'est-à-dire il s'agit soit d'amateurs, soit d'artistes présents sur scène des théâtres comme Alfred Vedvoje, Studio Hrdinu ou Roxy. Certains de ces théâtres sont ce que l'on appelle des stagioni, ce qui veut dire que les artistes qui n'ont pas une scène fixe en théâtre stable y jouent sur les scènes en tant qu'invités. Et nous cherchons justement ce type d'artistes indépendants.
Nezávislé alternativní umělce.
Même si un grand intérêt est porté sur les mots tout au long du festival, les projets sans barrière linguistique seront celui de Vladimir 518 et David Verbeek, Mui Pesmarlat, mon chien a faim, ainsi que le projet Anti-Words, qui s'est inspiré de la pièce de théâtre Audienza de Václav Havel et qui clôtura le festival le 10 octobre. Mais pourquoi un tel festival a été créé en 93, Lenka Domorowska éclaircit ses débuts tout en soulignant à qui ce festival est consacré précisément.
C'était une période post-révolutionnaire. Ce genre de festival n'existe pas encore à l'époque. Maintenant, et justement à Prague, il y en a une pléiade, si ce n'est que pour mentionner le festival 4 et 4 jours en mouvement. Mais à l'époque, il s'agissait surtout d'amateurs, de personnes, de théâtre, d'appartement. Et c'est dans cela que résidait l'esprit de l'indépendance. De nos jours, ce type de festival, ainsi que les espaces où ces artistes peuvent se produire, sont plus nombreux. Mais malgré cela, nous sommes persuadés que notre festival a toujours de la valeur, car nous voulons faire découvrir de nouveaux talents. Par exemple, la journée du samedi 5 octobre est dédiée à des artistes dont les noms peuvent uniquement être découverts au sein des facultés de théâtre.
La nouvelle future vague d'artistes tchèques déferlera sur la ville de Brno à la fin du mois d'octobre. Ce week-end, au même moment qu'à Prague, le festival s'introduira dans la ville de Pardubice. Lenka Dobrovská nous fait part de son invitation.
Le samedi 28 septembre, nous organisons un chemin festivalier commun qui prend départ à la gare centrale de Prague. Le train part à 17h45, donc nous nous donnerons rendez-vous vers 17h30 au guichet pour se rendre à Pardubice. Et sur place, nous montrerons aux personnes intéressées l'espace des moulins automatiques de l'architecte Josef Gočár, car c'est là que sera présenté le projet de Miroslav Bambušek Ropa, le pétrole. C'est un projet qui clôt le cycle Les chemins de l'énergie que Miroslav Bambušek prépare depuis longue date et qui traite des ressources énergétiques, de leur utilisation ainsi que des intentions politiques accompagnent leur exploitation.
N'hésitez pas à vous rendre sur le site du festival donc afin de découvrir l'entière programmation qui en vaut sans aucun doute le détour, à savoir www.nextwave.cz.
Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme, une suite consacrée à l'économie. Le Centre de développement de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, établit un lien entre les pays membres de cette organisation fortement industrialisée et d'autres contrées du monde en développement. Henri Bernard Solignac-Lecomte est le directeur de cette unité pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Il a participé au East-West Business Forum, une conférence internationale qui s'est tenue à Prague mercredi et jeudi, une conférence portant sur les échanges économiques entre la République tchèque et les pays africains. Henri Bernard Solignac-Lecomte y a présenté un rapport sur les perspectives de développement économique du continent africain et en a ensuite profité pour répondre aux questions de Pierre Maignan.
Économie, commerce.
Bon, c'est un rapport qu'on fait tous les ans en fait avec la Banque africaine de développement et les Nations Unies, le PNUD notamment, et qui essaye de prendre un peu le pouls des économies africaines. Je dis bien des économies africaines parce qu'on regarde les économies individuellement. On fait des moyennes sur l'ensemble du continent, mais l'Afrique n'est pas un pays, c'est 54 pays très différents. Et la conclusion, elle est que la croissance reste bonne pour les années qui vont venir. On a un modèle de prévision qui nous dit que ce sera près de 5% l'année, cette année et plus de 5% l'année prochaine en moyenne pour le continent. Mais que le défi reste celui de la transformation structurelle, la transformation de l'économie. En deux mots, la croissance est bonne, mais elle ne crée pas assez d'emplois. Pour qu'elle crée plus d'emplois, il faut que ce soit de nouvelles activités qui se développent, pas seulement plus d'activités traditionnelles. Et c'est ça, en fait, le défi pour les économies africaines.
Quelles sont les disparités que vous observez au sein des pays africains, ou alors, à l'inverse, les choses qui peuvent les rassembler au terme
ce qui les rassemble, c'est d'être une entité géographique qui s'appelle l'Afrique. Hein,
mais, bien sûr, mais économiquement, j'entends.
Sur le plan économique, on a des zones qui sont, on a des groupes de pays qui sont très différents. Vous avez des pays à revenus intermédiaires, que sont les pays d'Afrique du Nord ou l'Afrique du Sud, par exemple, qui ont des économies qui sont assez proches de certaines économies de l'OCDE par plusieurs critères. Et puis, on a au milieu, dans la zone intertropicale, l'Afrique que généralement on appelle subsaharienne, où là, on a des niveaux de très très disparates de développement, avec des économies relativement modernes pour partie dans des pays comme le Kenya, par exemple, et d'autres en Guinée ou en Centrafrique, où on est dans des états très fragiles. Donc là aussi, même au sein de ces pays subsahariens, il y a une très grande diversité de situations.
Mmh. Alors, vous avez dit aussi lors de votre intervention qu'il y a 10 ans, les prévisions étaient plutôt pessimistes. Aujourd'hui, elles sont plutôt optimistes, avec des croissances qui tournent autour de 5% pour la plupart des pays africains. Qu'est-ce qui dit que dans 10 ans, les prévisions ne seront pas à nouveau pessimistes et que celles d'aujourd'hui se seront trompées?
Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui se sont mis en place sur lesquels on ne peut pas revenir. Il y a notamment un certain nombre de pays qui ont franchi des étapes sur le plan structurel. Hein, je mentionnais ces pays à revenus intermédiaires dont on parle là, qui sont autant d'étapes dont on peut penser que ça peut revenir en arrière. L'Argentine nous montre que le développement, c'est un processus qui est réversible. Mais on a bon espoir quand même que ces économies continuent de développer, de structurer sur cette trajectoire. Autre chose qui a changé, c'est que la nature des systèmes politiques s'est profondément transformée. On a aujourd'hui des sociétés civiles qui sont beaucoup plus libres dans leur expression et des mécanismes, je dirais, de checks and balances, donc de contrôle un petit peu, qui sont dans beaucoup de pays, pas tous, mais de plus en plus profondément enracinés. Donc ça, je pense que ce sont des garanties que cette maturation économique et politique est enclenchée pour de bon.
D'accord. Et selon vous, quelles sont maintenant les réformes dont vous avez aussi évoqué, les réformes qu'il faut faire pour assurer un développement soutenable?
Au risque de la caricature, on pourrait dire que la bataille de la gestion macroéconomique a été gagnée. C'est-à-dire là où, dans les années 70-80, on a eu des accidents macroéconomiques, notamment en termes d'explosion de la dette absolument terrible. On a depuis une quinzaine d'années des économies qui, dans l'ensemble, sont quand même beaucoup mieux gérées en termes de maîtrise de l'inflation, en termes de maîtrise des déficits. Donc là, il y a très clairement une qualité de management, une qualité de gestion des gouvernements qui est de plus en plus élevée. Ce qui reste à faire maintenant, c'est à gagner la bataille des réformes structurelles. Ce qui empêche la croissance dont on parlait tout de suite d'être plus créatrice d'emplois, ce qui empêche ces nouvelles activités de se développer, ce sont en général le manque d'infrastructures. Il faut pouvoir connecter les villes, les campagnes, les pays au reste du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est l'énergie. On a beaucoup de mal à avoir une énergie de qualité et en quantité suffisante pour avoir des activités productives et surtout compétitives. C'est l'éducation et la formation. Beaucoup de jeunes cherchent un emploi, beaucoup d'entreprises cherchent des travailleurs, mais les deux ne se rencontrent pas parce que les formations ne sont pas adaptées à ce dont ont besoin les entreprises. Et puis, un environnement des affaires qui, même s'il s'améliore dans beaucoup de pays, hein, on a vu l'exemple du Rwanda là aujourd'hui dans la conférence, reste problématique en termes de corruption, notamment dans beaucoup de pays. Donc le chantier est encore énorme.
Alors, les domaines que vous avez évoqués, c'est des domaines dans lesquels l'État a un grand rôle à jouer.
Il y a de plus en plus de pays qui ont les moyens de financer cette réforme. Avec l'extraordinaire envolée des prix des matières premières, dont l'Afrique est particulièrement riche, vous avez un grand nombre de pays qui ont aujourd'hui les moyens de se passer complètement de l'aide. Hein, tous les pays producteurs d'énergie, notamment, donc de pétrole, de gaz, tout ça, aujourd'hui, ne sont plus du tout dépendants de l'aide, et même si elle s'arrêtait, ça ne les empêcherait pas de financer les réformes en question. Une chose que les gens savent peu, c'est qu'en moyenne, si on fait la moyenne de tous les pays africains, c'est-à-dire y compris les plus pauvres et les plus dépendants, l'Afrique, si elle était un pays, collecterait 11 fois plus en termes d'impôts qu'elle ne reçoit en termes d'aide de l'extérieur. Et pour les pays exportateurs de matières premières comme le pétrole, c'est beaucoup plus encore. Donc la question du financement, elle se pose déjà plus. C'est vraiment une question de l'allocation de ces ressources, de savoir bien les dépenser.
Justement, le problème, c'est pas non plus cette dépendance de nombreux pays à des matières premières et non pas à des produits à valeur ajoutée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire au niveau peut-être de développer des secteurs économiques de biens de consommation, etc.
Alors,
et de pas se reposer sur l'exportation de ces biens-là.
C'est ce qu'on dit, nous, dans notre rapport, c'est que ces matières premières, elles peuvent être, c'est un peu contre-intuitif, la base de la diversification. Quand on pense aux matières premières, on se dit, voilà, dépendance à l'égard de l'or, du pétrole, tout ça. C'est vrai que c'est un risque, mais c'est pas une fatalité. On a vu des pays comme le Botswana, par exemple, qui ont réussi à développer leur économie, et notamment tout le volet social, grâce aux revenus du diamant, qui ont été bien utilisés. On a vu Maurice, qui a franchi très rapidement différentes étapes de sa transformation en investissant intelligemment les revenus d'abord du sucre, ensuite de l'industrie du vêtement, et puis enfin pour arriver à développer des services à haute valeur ajoutée dans la banque notamment. Donc ça peut se faire. Le Chili a commencé dans le cuivre, a développé l'activité dans le bois, pour finir par développer, à partir de rien, une activité d'exportation de saumon, qui n'existait absolument pas. Donc, avant de passer à de la manufacture, à des services à haute valeur ajoutée. Donc, pour bien se diversifier, il faut d'abord diversifier ses ressources naturelles. Les pays d'Afrique qui ont de l'or ou du fer, ils ont en général d'autres minerais à leur disposition. Ils ont en général aussi les terres arables à disposition. Il s'agit de marcher sur ces deux pieds, hein, donc de développer à la fois son agriculture, les mines et l'énergie, et de ne pas rester dépendant. C'est pas mal d'avoir beaucoup de ressources naturelles, c'est mal de dépendre d'une seule. La part des revenus tirés des royalties sur la matière première est trop élevée dans les revenus des gouvernements. Parce que ça les rend dépendants de ce qui est un peu une rente. Et une rente en plus qui est volatile parce que, à mesure que si les prix s'effondrent, à ce moment-là, les revenus s'effondrent. C'est ce qu'on a vu en 2009. Donc on dit que c'est pas bon de continuer à dépendre autant de ce type de rente. Il faut augmenter la part des ressources de taxation directe et des ressources de taxation indirecte, mais surtout de taxation directe, parce qu'aujourd'hui, peu de gens payent l'impôt sur le revenu en Afrique, y compris ceux qui auraient les moyens de le faire, et surtout, les entreprises payent en général beaucoup moins que ce qu'elles devraient payer. C'est-à-dire que les taux nominaux d'imposition en Afrique sont parmi les plus élevés du monde, mais les taux réels, pour les très grandes entreprises, sont bien en dessous, parce que les grandes entreprises ont les moyens de négocier les arrangements avec les gouvernements. Ce qui est, à court terme, le plus facile à faire pour les gouvernements, c'est de revoir à la hausse, mais dans des proportions raisonnables, ces niveaux d'imposition des grands opérateurs économiques. Et je ne parle pas seulement des multinationales, je parle également des grands opérateurs du secteur informel, des importateurs de céréales, qui, en général, ne payent absolument aucun impôt. Et puis, de lâcher la pression sur le segment le plus opprimé, qui est celui des PME, qui, lui, par contre, est fait de petites entreprises qui n'ont pas les moyens de négocier des exemptions fiscales, et qui, non seulement supportent les taux nominaux les plus élevés, mais qui en plus sont souvent l'objet de redressements abusifs de la part des administrations fiscales qui cherchent des ressources. Donc il faut rééquilibrer la pression entre les grands qui payent pas assez et les petits qui payent trop.
D'accord. Et justement, les grands sont souvent des entreprises multinationales étrangères. Est-ce que pour des États africains, ça serait pas un bénéfice d'avoir des entreprises nationales qui exploiteraient les ressources du pays?
C'est pas évident. On peut pas donner de solutions. Sans regarder au cas par cas. Ça dépend vraiment du cas par cas. Prendre une participation dans une compagnie, ça veut dire être capable aussi d'avoir les capacités en interne de gérer de manière stratégique cette participation. C'est pas évident. Il vaut peut-être mieux ne pas avoir de participation directe, mais d'avoir une transparence des revenus et de l'exploitation des entreprises étrangères qui opèrent sur votre sol, et d'avoir une taxation qui soit juste et efficace et transparente de cette activité.
D'accord. Pour terminer, donc on est en République tchèque. J'aimerais savoir quelles sont, selon vous, les perspectives pour un pays comme la République tchèque de développer ses activités en Afrique. Aujourd'hui, on sait qu'ils exportent un peu et qu'ils importent encore moins. Quelles sont, selon vous, les perspectives pour des pays d'Europe centrale comme ça?
Je pense qu'il y a énormément de besoins dans tout ce qui est l'ingénierie, hein, notamment sur des secteurs comme l'agroprocessing, puisqu'il va falloir nourrir une population urbaine qui est en croissance rapide. Donc il va y avoir besoin de transferts de technologies extrêmement importants. Je pense que les opérateurs tchèques sont détenteurs de ce type de technologies. Pour ça, il faut trouver le bon matching, c'est-à-dire qu'il faut que les investisseurs, pour être rassurés, aient des partenaires de confiance sur place, des partenaires locaux ou des gens qui sont investis depuis longtemps sur place et qui peuvent les guider dans un partenariat qui soit profitable pour les deux parties. Donc je pense que dans tout ce qui est l'ingénierie, l'équipement, l'agro-processing, les services aux entreprises d'exploitation minière, par exemple, sur place, là, les opérateurs tchèques ont certainement une carte à jouer.
Et c'est ainsi que s'achève le bloc actualité préparé par toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore une fois de votre attention, merci de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy !